Midi 1, Karima, matin famille.
Et nous sommes en direct avec le docteur Atmane Lorabi, qui est psychiatre, psychothérapeute et secrétaire général de l'association marocaine de psychiatrie psychodynamique, pour parler aujourd'hui des médecines parallèles. Docteur Atmane Lorabi, bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans Matin Famille.
Bonjour Karima, tout le plaisir est pour moi.
Alors docteur, c'est devenu un petit peu, voilà, on va dire à la mode, un peu tendance, tout ce qui est médecine parallèle, l'hypnose, le magnétisme, etc. Mais bien sûr, ça peut représenter, je suppose, des dangers ou des risques, surtout pour notre santé psychologique. Comment expliquer cela ? Le fait que ça devienne un petit peu accessible, facile, et que beaucoup de gens s'y adonnent sans pour autant mesurer les risques ?
C'est une question qui est évidemment très complexe. Je pense que le premier élément de réponse est que quand on est en souffrance, on cherche de l'aide un peu partout et on peut avoir, comment dire, on peut avoir affaire à des gens de notre entourage qui peuvent nous recommander à travers des expériences personnelles, mais qui ne sont pas forcément transposables. Telle ou telle médecine alternative, entre guillemets, donc qui permettent d'aller un peu mieux, mais parce que aussi, sur le plan psychologique, il y a une très forte stigmatisation. Moi, je pense qu'il faut en parler clairement. Il y a une très forte stigmatisation donc, concernant tout ce qui se rapporte à la psychiatrie. Et donc, on va chercher tous les moyens disponibles qui vont permettre d'éviter la consultation auprès d'un psychiatre et a fortiori un traitement médicamenteux si l'indication se pose. Et si vous voulez, quand on parle des choses que vous avez évoquées, quand vous parlez d'hypnose, de magnétisme, etc., ou de médecine énergétique, médecine quantique, on peut parler de beaucoup de choses. En fait, toutes ces choses-là ne se valent pas. À titre d'exemple, on va parler d'hypnose. Alors, l'hypnose n'est pas une pseudo-science, entre guillemets, dans le sens où l'hypnose, oui, c'est une technique médicale scientifiquement prouvée, qui va induire un état de conscience modifié, où grosso modo, on n'est ni réveillé ni endormi, et qui va permettre d'agir sur certains éléments, c'est-à-dire en termes d'indication, ça va être par exemple les douleurs chroniques, ça va être les petits troubles anxieux, des petites choses comme ça. Mais c'est une technique qui va le plus souvent être utilisée par exemple par un professionnel du soin dans un cadre médical donné. J'insiste. Alors, j'en parlais pour les douleurs chroniques, etc. Donc, on peut avoir un algologue, un médecin qui est spécialisé dans la gestion de la douleur, qui fait de l'hypnose médicale et qui est à ce moment-là efficace et ça marche bien. On peut avoir un psychiatre ou un psychothérapeute, donc un psychologue formé à l'hypnose qui va utiliser l'hypnose, mais dans le contexte de sa thérapie, de la thérapie qu'il fait, c'est-à-dire c'est un outil au service d'une autre technicité qui est vraiment fournie par un professionnel du soin. Et à ce moment-là, l'hypnose a toute sa place. Même chose quand on parle, souvent il y a des choses qui reviennent, comme également le MDR, qui est une forme aussi de thérapie, beaucoup plus spécifique pour les gens qui ont subi des traumatismes et qui souffrent d'un syndrome de stress post-traumatique. Bon, là, c'est une indication qui est totalement validée, scientifiquement parlant et en se fondant sur des preuves. Mais quand on prend l'exemple de ces deux techniques, l'hypnose et le MDR, et qu'on va essayer de l'appliquer à d'autres types de contextes cliniques, en présence de grands syndromes psychiatriques, on peut avoir des délires, des hallucinations, etc., ben, là justement, on peut être plutôt délétère, et ça va être l'autre élément que je voulais donner à votre question de comment est-ce que au final ça peut empirer notre santé. Et le dernier élément, juste pour continuer la réponse sur cette question, c'est que très souvent ces médecines alternatives sont abordées d'une manière, comment dirais-je, c'est-à-dire en remplacement de la médecine traditionnelle. Ouais. On peut imaginer qu'il peut y avoir la médecine traditionnelle, entre guillemets, c'est-à-dire, voilà, quand on parle de psychiatrie, donc un psychiatre, etc., avec des médicaments, mais pourquoi pas avoir comme à point une médecine dite douce. Voilà, il n'y a pas de souci à ce moment-là. Le souci, c'est vraiment quand ça se substitue. Ouais. Et à ce moment-là, le point négatif, c'est que ça constitue authentiquement une perte de chance pour les patients qui souffrent de troubles sévères. Parce que pour à peu près toutes les maladies qui existent, pas que sur le plan psychologique ou psychiatrique, le plus on retarde le traitement, le moins de chance on a de pouvoir totalement guérir ou se remettre d'un épisode pathologique. Donc voilà un petit peu les trois éléments de réponse qui font que, bon, à la fois les gens y vont un peu plus, parce qu'ils sont dans la détresse, c'est clair, et parce qu'il n'y a pas forcément de connaissances autour de ça, parce qu'il y a aussi beaucoup de ces théories qui sont, entre guillemets, enrobées de preuves scientifiques, notamment quand on parle de médecine quantique, quand on parle de l'énergie du corps, etc. Oui, il y a probablement de l'énergie, enfin une cellule qui est vivante, il y a de l'énergie dedans, mais on ne peut pas confirmer la véracité de leur théorie ou le fondement de la théorie. Et ce qui est opposé de la part de ces gens-là, c'est qu'on ne peut pas non plus infirmer l'absence de ces énergies-là. Donc il y a un discours pseudo-scientifique qui va enrober un petit peu la chose et qui va convaincre rapidement et facilement les gens qui sont dans le besoin et qui sont dans la souffrance. Et c'est pour ça que justement, quand on est dans cette situation de détresse où on cherche absolument de l'aide, ben, il faut redoubler de vigilance pour savoir justement vers quel type de prise en charge est-ce qu'on peut se tourner.
Donc finalement, le faire par exemple en parallèle avec l'aval de son médecin, c'est possible, mais le faire exclusivement alors qu'on est en souffrance et qu'on a besoin d'un type spécifique d'accompagnement, là ça devient grave et ça peut créer des complications.
Absolument, absolument. Oui. Et puis le fondement, c'est que, vous savez, par exemple, je dirais une séance, il y a beaucoup de gens qui parlent de, par exemple, de séances de médecine énergétique, où après la séance, ils se sentent mieux, etc. Ben, j'ai envie de comparer ça à un soin à médiation corporelle. C'est comme après un hammam. Voilà, l'immense majorité des gens va se sentir
plus léger,
détendu, apaisé, etc. Ouais. Mais est-ce pour autant que c'est un soin, enfin au sens médical du terme, j'insiste, ben non, forcément non. Et puis, ce qui est important toujours en médecine et de manière générale dans le soin face à une plainte, c'est toujours éliminer les choses les plus graves, éliminer les choses les plus péjoratives pour l'état de santé de la personne. Et donc, à partir de ce moment-là, quand il y a une souffrance psychologique, quelle qu'elle soit, le plus important, c'est, je le dis réellement, c'est qu'il y ait un diagnostic précis pour permettre de savoir déjà quel est le potentiel de dégradation de la personne, le potentiel, et puis correctement évaluer la souffrance et puis donner la réponse appropriée à la souffrance en prenant en considération toujours les preuves qui sont apportées par les sciences et par la médecine. Mmh. C'est un peu ça, si vous voulez. Mais une fois qu'il y a eu cette évaluation première et qu'il y ait un traitement, je dirais médical ou pas, oui, tout peut se discuter par rapport aux médecines douces ou aux médecines alternatives. Moi, je préfère plutôt les nommer les médecines alternatives, même si on peut se poser la question du qualificatif ou plutôt de la dénomination médecine, mais ça reste des soins. Par exemple, l'énergétique, ça retrouve un petit peu ses racines avant que ce soit enrobé de théories quantiques, etc. Ben, c'est un peu dans les racines de la médecine traditionnelle asiatique, avec des histoires de méridiens, etc. Bon, il doit y avoir probablement, je ne vais pas dire un fondement, mais je vais dire qu'il y a des bases qui font que ça a subsisté dans le temps et qu'il y a peut-être quelque chose de positif à retenir, comme par exemple l'acupuncture, qui est reconnue dans pas mal de pays comme étant un soin. Mais encore une fois, la difficulté, enfin, ou plutôt le point principal, c'est que ça ne peut pas se substituer à une prise en charge médicale quand celle-ci est nécessaire. C'est très important, parce que c'est vraiment là où le bât blesse. Je comprends absolument toutes les personnes qui se faisant conseiller, et aussi un peu par peur, je le disais au début, vont se diriger vers telle ou telle personne. Mais là, on est vraiment face à des dérives qui franchement posent des questions éthiques. Et puis, souvent, la personne, au niveau de son portefeuille, elle souffre davantage. Donc, c'est toutes ces choses-là, si vous voulez, qui sont préoccupantes et qui font que on est obligé de se dire qu'il faut faire attention et qu'il faut être sur ses gardes quand on est en souffrance et quand on cherche quelqu'un qui va soulager notre souffrance.
Et en parlant justement du fait de faire attention, docteur Atmal Lorabi, qu'est-ce que vous conseillez peut-être aux personnes qui nous écoutent actuellement et qui seraient en souffrance ou qui ont quelqu'un de leur entourage qui est en souffrance? Question justement aussi de dédiaboliser le fait d'aller consulter un psychiatre ou un psychologue, parce que c'est vrai, comme vous l'avez dit, et je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est encore un petit peu tabou. Et les gens préfèrent justement aller vers des médecines alternatives ou parallèles plutôt que d'aller vers un spécialiste, alors qu'il n'y a vraiment pas de mal, au contraire.
Oui, alors moi j'aime souvent faire appel un petit peu à la réalité des choses. Quand on surfe un peu sur le site de l'OMS, etc., on voit que par exemple en termes de morbidité, la dépression est l'une des plus grandes causes actuelles de maladies. Donc c'est pas quelque chose de rare, on n'est pas seul à avoir ce genre de difficultés, même si très souvent nos proches qui ont même éventuellement consulté le plus souvent ne partagent pas leur expérience, c'est quelque chose qui est caché, mais il y a cet élément. Et puis je vous le dis honnêtement, je parle peut-être à titre personnel, mais il n'y a pas mieux que quand on reçoit quelqu'un en consultation, et au final, lui dire « bon, vous n'avez pas franchement besoin d'un traitement médical, mais vous devriez changer deux, trois choses, vous détendre davantage, etc. » À ce moment-là, oui, c'est pas l'impératif de mettre quelqu'un sous médicament. J'insiste, une prescription médicale, toujours quand il y a un bénéfice attendu qui dépasse largement les risques encourus. C'est ça la définition d'une bonne prescription médicale. Et donc, à partir de ce moment-là, sachant que n'importe quel médicament, les trucs pour les maux de tête, les états, les petits rhumes, etc., peuvent avoir des risques d'effets indésirables, cette question se pose toujours. Et à ce moment-là, le fait de consulter en n'ayant rien, on va être assuré, parce que c'est le devoir du médecin d'avoir une information, de donner une information qui soit fidèle, claire et précise concernant l'état de santé de la personne. Mais s'il y a besoin d'une prise en charge, il peut y avoir des options qui se dessinent, et c'est une discussion. Et puis toujours le bénéfice, je le redis, le bénéfice attendu est largement supérieur au risque qu'on va encourir. Mais là aussi, c'est une question de la confiance qu'on peut placer en le professionnel de soins en face de soi. En tout cas, le conseil vraiment pour les familles, c'est que au cas où on se dirige vers des médecines entre guillemets alternatives ou douces, il faut s'assurer que ce soit fait par un professionnel du soin. C'est-à-dire un professionnel du soin qui peut être psychiatre ou psychologue, mais qui soit formé à ces thérapies-là. Et souvent, je dirais même en général, des gages de sécurité, parce qu'il y a un professionnel derrière qui peut enclencher, si vous voulez, la prise en charge médicale quand elle est nécessaire.
Merci beaucoup, docteur Atmal Lorabi, pour tous ces éclairages. Et à mardi prochain, Inch'Allah.
À mardi, Inch'Allah. Bonne semaine.
Merci beaucoup, au revoir.